BW. Droits et libertés.
Commettre un viol, c'est imposer une relation sexuelle non consentie à quelqu'un d'autre. Un viol, c'est un crime partout dans le monde. Pourtant, il est toujours difficile pour les victimes de se faire entendre, d'aller porter plainte. Et c'est pour aider à identifier des violeurs qu'une Kenyane et une Britannique ont eu une idée. Le test ADN, on en parle dans ce magazine. Et aussi d'une nouvelle disposition controversée au sein de la police régionale en Allemagne. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. Wangu Kanja a elle-même été violée. C'était un soir, vers 22h. Elle circule alors à bord de sa voiture avec des amis dans Nairobi quand quatre hommes armés se dirigent vers eux, ouvrent la porte du véhicule, menacent les passagers et montent à bord. Les agresseurs les contraignent à se rendre à un distributeur automatique d'argent. Deux des hommes descendent de la voiture, retirent des billets grâce à des cartes de crédit volées. Les assaillants laissent partir les amis de Wangu Kanja. Elle reste seule dans la voiture avec eux. Un des hommes la pénètre contre son gré. Wangu Kanja a 27 ans à l'époque. Elle se souvient que tout est devenu sombre dans sa tête. Elle ne voulait plus sortir, a commencé à boire. Elle a sombré dans la dépression dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et pendant 3 ans, Wangu Kanja ne savait pas comment surmonter son traumatisme. Et puis un jour, elle a eu l'idée d'aider d'autres personnes victimes, elles aussi, de viol.
Tout est parti de mon expérience personnelle, de mon viol en 2002 et des difficultés énormes auxquelles j'ai dû faire face après. Jusqu'au moment où il faut vraiment faire quelque chose. Et quand une idée se dessine, il faut passer à l'action. Au bout de 3 ans, j'ai donc pris ma décision et j'ai fondé une organisation pour lutter contre les violences sexuelles.
Il n'est pas rare dans les conflits que le viol soit utilisé comme arme de guerre. Ça s'est vu ces dernières années, par exemple dans les Balkans, dans l'est du Congo, en Syrie notamment. Mais il n'y a pas que les régions de conflit où la violence sexuelle est répandue. Elle est aussi présente un peu partout, au quotidien. L'organisation américaine USAID estime que 14% des femmes ont subi au moins une fois dans leur vie des violences d'ordre sexuel au Kenya. Ça veut dire une femme sur 7, c'est énorme. En Tanzanie, elle serait encore plus nombreuse. Une femme sur 3, âgée entre 15 et 49 ans, aurait subi une violence physique durant les 12 derniers mois. Wangu Kanja refuse d'accepter cela et de rester les bras croisés. À la mi-août, elle était à Lindau, c'est en Bavière, sous une tente de toile où elle a participé au rassemblement Religions for Peace, une réunion de plus d'une centaine de délégués venus du monde entier pour réfléchir à l'influence sociale des religions. À côté du stand de Wangu Kanja se tenait Liza Smith, une criminologue de l'université de Leicester au Royaume-Uni. Ensemble, les deux femmes ont mis au point une méthode pour confondre les violeurs grâce à des tests ADN. Liza Smith ouvre une mallette remplie d'instruments médicaux et elle explique comment fonctionnent les tests en question. En cas de viol oral, les femmes peuvent effectuer des prélèvements dans leur propre bouche à l'aide d'un coton-tige jusqu'à 3 jours après les faits. Dans l'étui, il y a aussi des petites canules en plastique. Les femmes peuvent les introduire dans leur vagin pour prélever des traces ADN de leur agresseur. Ce kit doit être distribué dans des zones rurales au Kenya d'ici à la fin de l'année. Certains visiteurs du stand se demandent ce que ça peut bien avoir à faire avec la religion, puisque c'est le thème de la rencontre de Lindao. Réponse de Wangu Kanja.
Toutes les institutions religieuses s'intéressent désormais aux violences sexuelles et veulent aider les victimes. Certaines personnes vont même à l'église pour obtenir ce soutien. Les églises sont donc des partenaires capitaux en matière de lutte contre les violences sexuelles.
D'ailleurs, Ulrich Schneider, l'un des organisateurs de la rencontre de Lindau, salue cette initiative.
Nous espérons que ces tests, du fait même qu'ils existent, auront un effet dissuasif, préventif, si on communique autour, pour qu'il y ait moins d'agressions sexuelles.
Et Wangu Kanja espère au moins que les victimes se sentiront désormais mieux armées pour traduire leurs violeurs en justice. Pour une surprise, c'était une surprise. Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul, a annoncé que la police régionale allait désormais, dans ses communiqués de presse, stipuler la nationalité des personnes suspectées d'avoir commis un crime ou un délit. Une disposition qui concerne aussi les ressortissants allemands ou les personnes détentrices de plusieurs passeports, à la condition toutefois que les forces de police aient des informations fiables à ce sujet. C'est une nouveauté. Jusqu'à présent, dans la région, la police n'était pas obligée de mentionner la nationalité des personnes incriminées. Herbert Reul justifie sa décision par sa volonté de couper court à la circulation de fausses informations. Il mise donc sur la transparence pour contrer les rumeurs qui apportent de l'eau au moulin de l'extrême droite notamment. Et puis il existe un code de la presse en Allemagne. Certains Länder s'y réfèrent et énoncent que l'appartenance ethnique, religieuse ou à une quelconque minorité d'un individu ne doit pas être mentionnée dans une publication, à moins qu'il y ait un intérêt particulier à déroger à cette règle, en cas de crime de sang par exemple ou d'acte de terrorisme. À Berlin, Brême, en Rhénanie-Palatinat, en Hesse ou dans le Bade-Wurtemberg, la police continuera donc à s'en tenir à cette règle pour les informations à destination de la presse ou du grand public. En Basse-Saxe non plus, d'ailleurs, le ministre-président social-démocrate Boris Pistorius ne voit pas pourquoi il devrait changer les règles en vigueur. Comme il l'a indiqué à nos confrères du Deutschlandfunk, à qui il a précisé qu'il y avait déjà des exceptions dans des cas relevant de l'intérêt général. En Bavière, au contraire, on attend de voir ce que la nouvelle mesure donnera en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Réserve aussi du côté du syndicat de la police, GDP, pour ce qui est de la publication des informations sur la nationalité des suspects. Même si son président, Oliver Malchow, reconnaît que la nationalité des criminels joue souvent un rôle dans les enquêtes.
Il y a des fois où un individu a des caractéristiques physiques qui ne sont pas courantes dans le nord de l'Allemagne. Si la police a ces indices et qu'elle ne les divulgue pas, elle est aussi sous pression. Cela ne veut pas dire qu'il faut insister là-dessus. Mais si ces informations sont disponibles, elles peuvent permettre de réduire le cercle des suspects. Et cela peut être utile.
Le Conseil de la presse allemande soutient au contraire la décision des responsables politiques régionaux. L'organisation insiste sur le professionnalisme et l'éthique des journalistes. Son argument, partagé par le syndicat de journalistes DJVO, c'est que les journalistes et les organes de presse en Allemagne sont capables de décider si la nationalité d'un individu doit être précisée ou non dans un article ou un reportage, c'est-à-dire si cette information joue un rôle dans la compréhension de l'affaire. Dans les faits, plus les faits reprochés à quelqu'un sont graves et plus les informations sur sa nationalité sont demandées. Vous vous souvenez sans doute des agressions sexuelles de plus de 600 femmes à la gare de Cologne. Ça s'est passé dans la nuit du 1er de l'an 2015. La police avait signalé avec réticence à l'époque que les agresseurs étaient d'origine nord-africaine, ce qui avait provoqué un tollé. Beaucoup d'Allemands avaient alors exprimé leur incompréhension. Certains ne voyaient pas pourquoi cette origine avait été mentionnée au risque de faire passer tous les Arabes ou ceux qui peuvent passer pour des Arabes pour des suspects potentiels. Et effectivement, d'ailleurs, même des collègues du programme arabophone de la DW avaient eu l'impression après ça qu'une certaine défiance s'était immiscée chez de nombreux Allemands qu'ils croisaient dans la rue ou dans les transports et qui semblaient avoir peur d'eux. Même la chancelière avait pris la parole à l'époque pour dire que ces actes réclamaient une réponse ferme de l'état de droit. Depuis, la police diffuse ces informations avec moins de parcimonie, aussi pour contrer donc la vitesse de propagation des infos vraies ou fausses sur les réseaux sociaux qui ont tôt fait de devenir des rumeurs qui prennent de l'ampleur. Les méthodes d'investigation de la police changent, elles aussi. Depuis août, le ministère fédéral de la Justice a fait savoir qu'un projet de loi avait été déposé pour autoriser des relevés ADN en cas de fuite d'un criminel après son acte, pour déterminer la couleur de la peau, des cheveux, des yeux et aussi l'âge du suspect recherché. C'est un véritable bouleversement, puisque actuellement, la loi n'autorise que de déterminer le sexe de la personne recherchée grâce à son ADN. Les enquêteurs peuvent aussi entrer les données ADN récoltées dans une banque de données pour les comparer avec des informations sur des criminels déjà enregistrés dans leur fichier. Le projet de loi précise que l'origine biogéographique, alors n'oubliez pas, c'est vraiment le terme employé, l'origine biogéographique donc d'un suspect n'aura toujours pas le droit d'être déterminée. Un test ADN rend possible la détermination d'une origine géographique, mais la méthode est contestée et souvent approximative. Raphaël Béat, sociologue spécialiste de la police à l'université de Hambourg, trouve que l'on confère à ces informations au sujet de l'origine ou de la nationalité d'un suspect une importance exagérée. Il met d'ailleurs en garde contre les risques de stigmatisation ou les jugements à l'emporte-pièce.
La grande majorité des délits commis par ce qu'on appelle des migrants sont commis au moins 6 mois après leur arrivée en Allemagne. La plupart des criminels d'origine étrangère vivent donc depuis assez longtemps en Allemagne pour connaître les normes en vigueur ici. Leur origine ou leur appartenance ethnique ne joue qu'un rôle mineur dans l'ensemble.
Pour comprendre un petit peu mieux le contexte politique, peut-être les gouvernements régionaux tentent de jouer des muscles en remettant ce type de sujet sur le tapis, alors qu'en Allemagne de l'Est, 3 Länder renouvellent leur parlement régional cet automne. Après le Brandebourg et la Saxe le 1er septembre dernier, la Thuringe votera le 27 octobre et la crainte de voir l'AfD, le parti d'extrême droite, continuer sa percée est grande, ce parti qui tente de faire peur aux électeurs en les mettant en garde contre les étrangers criminel. C'est ainsi que se termine ce numéro de Droits et Libertés. Merci à Tessa Valta et Ralph Bosen pour les sons. Pour réécouter ou télécharger cette émission et toutes les précédentes, allez voir sur notre site internet www.com/français à la rubrique Nos podcasts, Droits et Libertés. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.